Pont, je présente le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour, Gilles, merci. Il est 9h10, Alain Havane est à Port-au-Prince. La capitale haïtienne à l'arrêt ce jeudi pour dénoncer l'insécurité. On retrouve notre confrère du Nouvelliste dans un instant. Cuba et une page qui se tourne sur l'île, celle des frères Castro. À la veille de l'ouverture du congrès du Parti communiste cubain, on s'arrête sur les défis immenses qui attendent la nouvelle génération qui arrive à la tête du pays. Décryptage avec notre invité du jour. Et puis le Covid en hausse en Guadeloupe. Conséquence, on serre la vis. Benoît Ferrand, ce sera la une de votre journal de l'Outre-mer.
Oui, le préfet a décidé de renforcer les mesures de restriction, à commencer, nous le verrons, par le couvre-feu.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous.
RFI à Gonaïves, 90.5 FM.
Porte close aujourd'hui en Haïti pour les établissements scolaires catholiques. Mouvement rejoint par le secteur privé en solidarité avec les familles et les victimes des raptes meurtriers qui traumatisent Haïti. Bonjour, Franz Duval.
Bonjour Michael.
Rédacteur en chef du Nouvelliste. Avec nous, on va s'arrêter ensemble sur cet appel de l'Église. Mais d'abord, revenons sur l'actualité d'hier. 3 jours après l'enlèvement de 12 personnes, parmi lesquelles 7 religieux, un changement de Premier ministre a été annoncé. Une nouvelle équipe qui permettrait, selon le président Moïse, de mieux s'attaquer à l'insécurité. Ce que ne croient pas du tout les habitants des Gonaïves, interrogés par Ronel Paul.
La démission de Joseph Jout arrive trop tard, parce que depuis son arrivée au poste de Premier ministre, l'insécurité n'a fait que s'aggraver. Les kidnappings sont partout, même au Gonaïve.
Même dans
la
ville Gonaïve.
Sacrifier, c'est pour la galerie.
La démission de Joseph Jout, c'est pour épater la galerie. L'insécurité dans notre pays, c'est une insécurité planifiée. Avec le nouveau Premier ministre Claude Joseph, qui est plus proche du président Jovenel Moïse, vous allez voir que l'insécurité va encore augmenter parce que c'est avec cette forme d'insécurité qu'ils vont pouvoir continuer à maîtriser la population et rester au pouvoir.
Parole recueillie au Gonaïve. Franz Duval, ce nouveau gouvernement que l'opposition a refusé d'intégrer parce que la nomination de Claude Joseph s'est faite sans négociation.
Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées sans réponse. D'abord, on ne sait pas pourquoi vraiment Joseph Jout a donné sa démission. On ne sait pas non plus si Claude Joseph est un premier ministre en I ou bien est-ce qu'il va être le premier ministre. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de pourparlers, il n'y a pas eu de dialogue. Alors, on n'a pas trop bien compris qu'est-ce qui se passe. L'opposition, pour le moment, reste sur ses gardes. L'opposition appelle toujours au départ du président Jovenel Moïse et annonce qu'elle ne va pas intégrer un gouvernement d'union nationale parce qu'on ne comprend pas très bien quels sont les mécanismes derrière et le changement de Premier ministre.
Et dans ce contexte politique, donc, France, je le disais, cette grève ce jeudi pour dénoncer l'insécurité, grève qui ne dit pas son nom, à Port-au-Prince, hein, l'Église catholique a lancé un appel.
Alors, tout a commencé par dimanche. L'Église catholique avait lancé un appel pour que les écoles contrôlées par l'Église catholique et les universités ferment leurs portes. Hier, les associations patronales ont embrayés aussi dans la même direction et ont décidé de demander à leurs membres de fermer leurs portes. Et dans l'après-midi, 2 syndicats de transporteurs publics, c'est-à-dire ceux qui organisent vraiment le transport de passagers en Haïti, ont accepté de rejoindre le mouvement. À la fin, c'est une grève générale, mais c'est une grève générale qui ne dit pas son nom. On va voir comment cela va se passer. Pour le moment, Port-au-Prince s'est réveillé avec les activités au point mort. Il n'y a pas d'élèves dans les rues pour le moment. Il n'y a pas encore d'entreprise ouverte et on s'attend à une journée porte fermée sur la capitale et dans la grande région métropolitaine. On va voir qu'est-ce que cela va donner en province.
Journée morte, donc, ce jeudi. En Haïti, un mot du Covid-19. France également, le Nouvelliste a interviewé le docteur Jean-William Pape, hein, qui appelle à la vigilance, notamment des jeunes, contre les variants du virus.
Alors, le docteur Pape le dit très bien. Haïti a eu de la chance jusqu'à présent, mais rien ne dit que la chance va rester. Rien ne dit que la chance sera du côté des jeunes cette fois. La première vague, la deuxième vague de la Covid-19 n'a pas fait beaucoup de dégâts en Haïti. Mais le docteur Pape, qui est le principal spécialiste de la question en Haïti, met en garde, il faut faire attention. On est en train de surveiller les variants. Pour le moment, on n'en a pas identifié en Haïti, mais ça peut survenir à n'importe quel moment. C'est son cri qu'il a lancé hier pour dire attention, les variants peuvent déferler sur Port-au-Prince, sur Haïti.
Et c'est donc à retrouver à la une du Nouvelliste ce jeudi. Franz Duval, merci. Il est 9h15 à Port-au-Prince, comme à Washington.
It's time to end America's longest war.
Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre américaine. Il est temps que les soldats rentrent à la maison, déclarait hier soir Joe Biden. Officialisant le retrait des troupes d'Afghanistan, les États-Unis auront définitivement quitté le pays au 11 septembre. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
La presse américaine y revient abondamment.
Oui, avec en une du New York Times, la photo de Joe Biden avançant parmi des centaines de pierres tombales blanches qui se découpent sur l'herbe verte du cimetière d'Arlington. Et sous la photo, cette citation du président, les troupes américaines ne doivent pas être utilisées comme monnaie d'échange lors des négociations entre les belligérants. Mais justement, selon le Wall Street Journal, ce plan pour évacuer les troupes d'ici le 11 septembre 2021 enlève au gouvernement de Kaboul son principal moyen de pression sur les talibans. En plus, rappelle le journal, l'administration Trump s'était entendue avec eux l'an dernier à Doha pour qu'ils limitent les actions d'Al-Qaïda contre la promesse des Américains de partir d'ici le 1er mai. Du coup, s'ils estiment que les Américains se retirent de cet accord, les talibans ne vont absolument pas se sentir obligés de discuter avec le gouvernement afghan, explique un analyste de l'ONG International Crisis Group, interrogé par le Wall Street Journal. Et puisqu'on parle d'eux, que pensent les vétérans américains de ce retrait? Le Washington Post donne la parole à Peter Lucier, un ancien soldat depuis longtemps favorable à ce retrait. « Je pensais que je serais heureux, mais ça ne résonne pas comme une victoire. C'est un grand sentiment de vide. » Car estime le New York Times aujourd'hui que pour les États-Unis, la guerre se termine, certaines questions toujours remises à plus tard se posent enfin. Comment les sacrifices innombrables et les petites victoires peuvent-ils laisser l'Afghanistan sans une meilleure promesse de paix qu'il y a une génération? Qu'est-ce que cela dit du prix de la vie des presque 2400 soldats américains tués et de la nation américaine dans son ensemble?
À la une aussi, Christophe, aux États-Unis, un comité du Congrès qui s'est penché hier sur le principe d'une éventuelle réparation financière de l'esclavage.
Un vote historique, estime le New York Times. Pourtant, le comité n'a fait que recommander l'adoption d'une loi qui, explique le Washington Post, permettrait de créer une commission chargée de faire des propositions sur le paiement de réparations aux descendants des personnes réduites en esclavage. Mais ce projet de loi a été introduit pour la première fois il y a 30 ans, rappelle le journal. Et là, c'est le plus loin qu'il ait jamais été. Plus largement, The Hill note que le débat racial s'empare du Congrès cette semaine, avec des démocrates qui essaient aussi de faire passer une loi pour combattre les attaques visant les Américains d'origine asiatique, et une autre pour élargir le droit de vote, particulièrement celui des Noirs et d'autres minorités. Pour expliquer cette pugnacité législative, le journal rappelle que Joe Biden et les démocrates doivent une bonne partie de leur succès à la présidentielle au vote des minorités. Certains démocrates pointent, eux, le bilan de Donald Trump sur tout ce qui les concerne.
Enfin, on termine au Mexique, Christophe, où la Chambre des députés adopte un projet de loi du président Obrador pour renforcer le contrôle de l'État sur le secteur des hydrocarbures.
Le texte doit encore être voté par le Sénat, mais il fait déjà la une, car si la loi, note Excelsior, a été largement adoptée par la majorité pour qui elle mettra fin au vol de carburant et à la corruption dans le secteur énergétique, l'opposition, mais aussi les chefs d'entreprise et les experts s'y opposent. L'Institut mexicain pour la compétitivité estimait ainsi, quelques minutes à peine après l'adoption de cette loi, rapporte El Universal, que la réforme allait être problématique tout simplement pour les familles qui voudraient acheter de l'essence. L'état des finances des entreprises du secteur privé comme Pemex, à qui serait transférée la production, la transformation, le transport des hydrocarbures, donne une idée de leur inefficacité opérationnelle et administrative.
Christophe Paget, merci. Direction La Havane maintenant.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Cuba, à l'aube du nouvel ère. Demain, vendredi, s'ouvrira le 8e congrès du Parti communiste, le dernier présidé par le premier secrétaire Raúl Castro, le frère de Fidel, qui prend sa retraite après avoir déjà lâché la présidence à Miguel Díaz-Canel il y a 3 ans. Et c'est justement ce dernier qui devrait revenir les rênes du PC, cœur du pouvoir à Cuba. Pour en parler, Jeannette Abel, chercheuse à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Cuba, dirigé depuis 1959 par la célèbre fratrie, qui sera désormais donc entre les mains d'une nouvelle génération, plus jeune, génération qui n'a pas fait la révolution. Avant d'évoquer les défis qui l'attendent, un mot, Jeannette Abel, du contexte économique dans lequel s'ouvre ce congrès.
Dans une conjoncture très difficile, c'est un congrès très important parce que les défis pour cette nouvelle direction du Parti communiste sont très nombreux et la situation économique et sociale en premier lieu est très compliquée, d'une part parce que la pandémie fait des ravages à Cuba, bien que Cuba ait échappé au conditions les plus difficiles du reste de l'Amérique latine, mais malgré tout, il y a des derniers temps, il y a un rebond qui rend encore plus compliqué la solution de nombreux problèmes auxquels l'île est confrontée, et d'autre part parce que le maintien des sanctions imposées par Trump après 60 ans d'embargo, le maintien de ces sanctions économiques reste entier pour l'instant. Joe Biden n'a pas modifié cela pour le moment, et tout cela crée un environnement extérieur auquel s'ajoutent des défis internes considérables.
Pas moins de 280 sanctions imposées par l'administration Biden, avec, vous le disiez, donc ce contexte, s'ouvre ce congrès du PC et un parti, vous commenciez à l'évoquer, qui est divisé en son sein sur les réformes qui sont à mener pour résoudre toutes ces crises et la crise économique en premier lieu.
Oui, le premier problème, la première question traverse le Parti communiste, et pas seulement le Parti communiste cubain, mais l'ensemble de la société, concerne les réformes économiques qui commencent à être appliquées depuis maintenant plusieurs années et qui, en réalité, peuvent se résumer ainsi. Il s'agit de réinsérer Cuba sur le marché mondial, ce qui implique d'accroître le rôle du marché, la place de la propriété privée qui a été inscrite dans la nouvelle constitution adoptée en 2019, le rôle accordé aux investisseurs étrangers et l'unification monétaire qui a eu lieu au début de cette année, au début de 2021, l'unification des taux de change, etc., et qui équivaut à une dévaluation. Tout cela est lourd de conséquences parce que le pouvoir d'achat, l'unification monétaire d'abord équivaut à une dévaluation, et une dévaluation très importante. Le pouvoir d'achat est en baisse, l'inflation s'accroît et les inégalités sociales aujourd'hui sont très fortement renforcées. Donc le défi économique pour la direction actuelle, avec les conséquences sociales que je viens d'évoquer, est un défi immense et dont on ne voit pas, tant que les sanctions économiques nord-américaines sont maintenues, dont on ne voit pas très bien comment elles vont être résolues, du moins à court terme, sauf à découvrir de nouveaux vaccins contre le coronavirus. Il y a plusieurs vaccins en cours d'études à Cuba et même en phase 3 qui pourraient peut-être un petit peu soulager la situation. Je veux juste dire un mot. Il y a d'énormes pénuries alimentaires, des pénuries de médicaments, des problèmes concernant l'électricité, des problèmes concernant les circuits d'eau et des canalisations qui pèsent très très lourdement sur la population et qui nourrissent dans certains secteurs un vrai mécontentement.
Et qui nourrit aussi demande de plus de liberté également et de plus de droits. On a vu fleurir une contestation ces derniers temps inédite aussi au sein de la population, Jeannette Abel.
Tout à fait. Alors, ce qui rend la situation, je le disais, plus complexe et les défis pour la nouvelle direction encore plus importants, c'est d'une part donc ce mécontentement social de certains secteurs, mais importants, de la population, notamment les plus pauvres, les retraités, les femmes célibataires, etc., qui connaissent des difficultés énormes dans la vie quotidienne. Et d'autre part, le fait que maintenant, on a une société plurielle, une société beaucoup plus diversifiée, une nouvelle génération des jeunes maintenant.
Qui a accès aussi, Jeannette Abel, je le précise, qui a accès aussi maintenant à l'Internet mobile, et ce qui change énormément de choses à Cuba.
Tout à fait. C'est un bouleversement considérable parce que ça change d'une part l'accès à l'information dont disposent de nombreux secteurs de la société maintenant, et ça alimente une contestation culturelle qui a une dimension politique et dont on a vu les effets au mois de novembre, au moment où ce qui s'appelle le mouvement San Isidro, en tous les cas au moment où la police est intervenue contre des dissidents. Alors des dissidents qui sont pour certains très pro-américains, très hostiles au régime, mais l'intervention de la police a provoqué des contestations de certains, au moins de la population du quartier et même d'autres éléments qui ont rouspétés, on peut le dire, qui ont protesté contre cette intervention policière, et en invoquant en particulier la Constitution et en invoquant les droits démocratiques qui sont inscrits pour certains dans la Constitution. Et donc ces nouvelles générations, ces jeunes, etc., ont dit qu'ils étaient violés par l'intervention policière, et y compris par certaines des politiques appliquées par le gouvernement. Si bien que cette contestation culturelle, politique, démocratique peut rencontrer une contestation sociale, ce qui fait qu'on a une situation maintenant qui est beaucoup plus dans la population plus vulnérable, et les défis de la nouvelle direction sont d'autant plus importants que sa légitimité est évidemment beaucoup moins importante que la direction précédente, que soient les erreurs commises par la direction précédente.
Rapidement, il nous reste très peu de temps, Jeannette Abel, une dernière question. Cette nouvelle génération, parce qu'elle n'a pas connu la révolution, est-ce qu'elle peut justement se détacher de la ligne historique du parti et mener sa propre voie, ou malgré tout restera-t-elle attachée à cette idéologie?
Visiblement, c'est tout cela à la fois. C'est-à-dire qu'il y a quand même, même dans la population jeune, il y a maintenant une très grande diversité. Et ça n'a plus du tout, cette société n'est plus du tout la même que la société des années 60, des années 70, etc., post-révolutionnaire. C'est une société maintenant qui a des revendications diverses, des aspirations différentes, dont certaines ont des colorations politiques que nous connaissons, mais qui n'existaient pas auparavant. Et c'est précisément à cause de cela que je dis la nouvelle direction d'Yves Canel, futur secrétaire du Parti communiste, et ce qui va sortir du Congrès, on va voir dans quelle mesure cette nouvelle direction est capable, ou en tous les cas accepte, de libéraliser, de prendre un certain nombre de mesures sur le terrain démocratique, politique, qui vont permettre d'apaiser la situation actuelle, qui est une situation très difficile.
Avec ce congrès donc, qui s'ouvre demain à La Havane et qui se refermera lundi. Jeannette Abel, spécialiste de Cuba, merci pour votre éclairage.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec un peu de retard, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Les chiffres du Covid repartent à la hausse en Guadeloupe. Le préfet serre la vis.
Oui, le préfet Alexandre Rochat qui a annoncé hier une série de mesures, nouvelles mesures de restriction qui s'installeront en deux phases, la plus emblématique étant le renforcement du couvre-feu. Franck Aristide.
Dans un premier temps, dès samedi, trois mesures entreront en vigueur. D'abord donc, vous l'avez dit, le couvre-feu qui sera avancé de 3 heures à compter de 19h et jusqu'à 5h du matin. Plus personne ne devra se trouver sur la voie publique. Seuls seront autorisés à circuler ceux qui auront un motif impérieux d'ordre professionnel, familial ou de santé, vous les connaissez. Ensuite, et c'est la conséquence logique de ce couvre-feu renforcé, les restaurants seront purement et simplement fermés le soir. Puis les lieux de culture, cinéma, théâtre et musées qui jusqu'à maintenant pouvaient encore accueillir du public devront eux aussi baisser le rideau. Enfin, les jauges seront abaissées dans les centres commerciaux ou lieux de culte pour réduire encore la possibilité de contact. Dans un second temps, à partir de lundi cette fois, c'est le système éducatif qui devra s'adapter à cette situation sanitaire dégradée. Les collèges et lycées n'accueilleront que 50% des élèves par semaine. Libre à chaque établissement de s'organiser pour l'alternance. Et puis le sport sera lui aussi impacté avec l'interdiction des entraînements et des compétitions sportives pour tous les adultes. Des mesures, Sébastien, qui s'ajoutent à celles qui existaient déjà, telles que la fermeture des salles de sport.
Direction maintenant la Martinique avec un nouveau chargement d'aide humanitaire qui a pris hier soir la direction de l'île de Saint-Vincent où une éruption volcanique est en cours, vous le savez, au départ de la plateforme logistique mise à disposition sur le port de Fort-de-France. Écoutez le président de la Chambre de commerce de la Martinique, Philippe Jocques.
Et là nous envoyons 40 000 bouteilles d'eau et de jus à nos amis de Saint-Vincent. Et donc c'est un premier envoi. Nous avons eu ce matin une visioconférence avec les membres du réseau des chambres de commerce de la Caraïbe. Le besoin immédiat, c'est l'eau. Donc on répond à ce besoin immédiat et on reste en contact avec eux pour déterminer dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent les autres besoins qui sont, semble-t-il, aujourd'hui moins urgents. Très clairement, ils nous ont indiqué que les captations étaient fermées pour éviter la pollution par les cendres. Et donc, il n'y a pas d'eau au robinet. C'est vraiment une grande difficulté.
Ce premier convoi de 40 000 bouteilles part dès ce soir ?
Il part tout à l'heure. Et je pense qu'ils seront à Saint-Vincent demain. Cette distribution sera assurée par la Chambre de commerce de
Voilà, Michael, bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, pour votre concision et à demain. Merci aux équipes de la première. 15h30 quasiment ici à Paris, ce journal d'Haïti et des Amériques était réalisé par Claude Battista. Vous pouvez le retrouver, je vous le rappelle, en podcast sur RFI Pure Radio. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et notamment Twitter @RFI Amérique. À demain. Session Lab.